ici, La Voix de l'Amérique.
Bonjour à tous, merci de votre fidélité à La Voix de l'Amérique. Invité exceptionnel cette semaine dans les studios de Washington pour parler de la crise en Centrafrique. Alors que les Nations Unies estiment que plus de 2,5 millions de personnes ont besoin d'assistance dans ce pays, nous accueillons cette semaine trois invités qui prêchent la paix et l'entente interconfessionnelle. Je veux bien sûr parler des trois leaders religieux qui sont à mes côtés aujourd'hui dans ce studio. Tout d'abord, à ma droite, nous avons le plaisir d'accueillir l'imam Omar Kobine Layama, président de la Conférence islamique centrafricaine. Bonjour.
Bonjour.
À sa droite, nous avons le plaisir d'accueillir le révérend Nicolas Gregoyam Gbangou de l'Alliance évangélique centrafricaine. Bonjour.
Bonjour.
Et à votre droite se trouve l'archevêque, évidemment, de Bangui, Monseigneur Dieudonné Nzapalainga. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, on a le plaisir de vous accueillir dans ce studio cette semaine. Vous êtes en visite aux États-Unis, vous avez prêché la paix, vous avez parlé évidemment de la situation dans votre pays. Mais avez-vous l'impression que vos interlocuteurs ont compris l'urgence de la situation dans votre pays ?
Effectivement, nous avons été enthousiastés d'abord par l'accueil de tous ceux qui ont accepté de nous recevoir pour vraiment toucher du bout des doigts les difficultés que subissent le peuple centrafricain. Et j'espère que nous avons été écoutés par tous nos interlocuteurs. Ceux qui étaient en face de nous vivaient avec nous. C'est comme s'ils ont pu vivre avec nous tout ce que nous avons vécu sur le terrain en République centrafricaine. Et je pense qu'ils ont fait des promesses, ils ont pris des engagements pour accompagner le processus de réconciliation en République centrafricaine et de la pacification également du pays.
Et vous, Révérend ?
Nous avons été agréablement surpris de voir que toutes les portes nous étaient ouvertes. Nous ne nous attendions pas à cet accueil de la part du peuple américain à travers ses différentes autorités. Et donc, pour nous, nous estimons que si les portes nous ont été ouvertes, nous croyons aussi que il y aura des accompagnements, des promesses faites vont aboutir à des résultats probants, concrets, pour le peuple centrafricain.
De mon côté, je pense que l'intérêt manifeste est là, la part des interlocuteurs américains qui nous ont reçus à bras ouverts et qui seront disponibles pour écouter, comme disait l'imam, toucher du doigt la réalité centrafricaine. Nous portons la voix, nous disons toujours, nous sommes la voix des sans-voix et nous portons la souffrance, l'espérance, l'attente de tout un peuple. Aujourd'hui, hier, et nous avons pu rencontrer beaucoup de personnes pour faire remonter les doléances. Notre souhait et notre désir, c'est que ce ne soit pas lettre morte, mais que ce soit vraiment converti en réalité pour alléger la souffrance du peuple centrafricain.
Et justement, révérend, c'est important de prêcher ce message ensemble, tous les trois, un symbole d'unité, alors que la Centrafrique connaît des heures difficiles.
Mais surtout que la situation n'a pas été bien présentée par les presses, par les médias. Il était important que nous puissions nous déplacer tous trois pour parler de vive voix, comme disait l'archevêque, faire le porte-parole de son voix, et pour amener le peuple américain à comprendre que le conflit en Centrafrique n'est pas un conflit interreligieux, mais c'est plutôt un conflit militaro-politique où la religion a été simplement instrumentalisée, si on peut dire ainsi. Les hommes politiques ont voulu instrumentaliser la religion et par nous, responsables religieux, nous avons dit non. Ce conflit n'est pas religieux, c'est un conflit militaro-politique. Il ne faut pas que ça se déplace de terrain. Et donc, nous estimons que notre déplacement a eu un effet, un impact sur le peuple américain qui devra dorénavant comprendre que la situation en Centrafrique mérite une attention particulière comme dans d'autres parties du monde. En ce moment, il y a des problèmes en Syrie, il y a des problèmes en Ukraine. Et nous pensons que la RCA devra être aussi au centre de l'intérêt américain.
Alors, Imam Layama, vous êtes évidemment le président de la Conférence islamique centrafricaine. On a entendu des mots très durs de la part de diplomates, notamment occidentaux. On parlait de situation pré-génocidaire. On parlait également de nettoyage ethnique. Est-ce votre avis concernant la situation actuelle en Centrafrique?
C'est pour éviter ce génocide et éviter aussi des assassinats à grande échelle que nous sommes obligés de nous déplacer afin que la communauté internationale, les Nations Unies, puissent prendre le relais des forces internationales qui sont là en place. Je veux parler de la MISCA et des Sangaris pour que ces deux missions soient transformées en une mission de paix, de maintien de paix des Nations Unies. Parce que le pays est si vaste, il faut un effectif des hommes armés conséquents, du matériel conséquent, pour pouvoir vraiment sécuriser le pays, afin que la minorité musulmane qui est là ne puisse pas connaître ce que déjà les diplomates ont commencé à dire, qu'il y a un pré-génocide, il y a des assassinats, des concerts. Il faudrait que cette minorité soit protégée. Et je ne dis pas seulement la minorité musulmane, parce que les groupes armés sont là en train de sévir, la SELECA de l'autre côté, les anti-balates de l'autre côté, et la LRA aussi de l'autre côté. Donc, ce n'est pas seulement la minorité musulmane en ce moment qui est en danger, mais c'est la quasi-totalité de la population centrafricaine. Mais si bien vrai que l'autre groupe a pris comme ennemi les musulmans, mais notre trio doit aussi leur servir des messages. Des messages pour qu'ils puissent savoir que les hommes de Dieu, qui ne se sont pas choisis eux-mêmes, mais Dieu a décidé, et que les autres ont voulu que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous sommes mis ensemble, c'est dans l'intérêt général du peuple centrafricain.
Mais archevêque Nzapalanga, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas peut-être, certains ont cette impression qu'il y a un décalage entre vos discours d'apaisement et d'unification et la réalité sur le terrain? Est-ce que finalement, tous ces mois de déchirement en Centrafrique n'ont pas abouti à une solution irréparable?
Il faut dire les choses clairement. Actuellement, en Centrafrique, l'État est impuissant, inexistant, pour ne pas dire fantôme. L'État n'a pas les moyens pour assurer ses obligations régaliennes. Il n'y a pas les agents de sécurité, ça veut dire les policiers, les gendarmes, vous ne trouvez pas les médecins, les instituteurs dans l'intérieur du pays. L'État fait défaut. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez des groupes armés ou des individus qui prennent en otage et qui maintenant s'autoproclament et qui pensent diriger des villes entières. Voilà pourquoi il faut mettre fin. Et maintenant, on fait des confusions, on pense que nous n'arrivons pas à prêcher. Nous n'avons pas appelé ces individus. Les individus ont des objectifs bien clairs, soit poursuivre les gens et les tuer, soit voler, racketter, détruire. Ça, c'est leurs objectifs, qui sont loin des objectifs qu'on peut appeler chrétiens. Voilà pourquoi nous sommes à porte-à-faux par rapport à cette manière de faire. Nous lançons des appels. Vous avez cette masse qui est prise en otage, c'est-à-dire le peuple centrafricain, qui n'aspire qu'à la paix, qui aspire à l'unité, qui aspire à la fraternité. Maintenant, elle est prise, elle est tétanisée, paralysée, ne peut même pas aussi dire un mot. Parce qu'il y a des hommes en armes, il y a des hommes qui ont pris des machettes et tout, et qui les terrorisent. Il est temps de mettre fin. Nous continuons à le dire, et nous savons que le moment viendra où la raison prendra le dessus. Ce n'est pas par la passion, par la méchanceté, par la vengeance, par la haine que nous trouverons des réponses à nos problèmes. C'est plutôt par la non-violence, par la fraternité, par le pardon, tolérance.
Mais révérend Bangou, est-ce qu'aujourd'hui la crainte de la partition du pays est-elle éloignée?
Cette crainte, nous ne pouvons pas dire qu'elle est déjà qu'elle est éloignée. Elle est encore là d'actualité, mais nous continuons de prêcher pour dire que notre pays ne mérite pas de partition. Parce qu'on ne dira pas que tous les musulmans en Centrafrique sont des étrangers. Il y a des musulmans centrafricains qui ont besoin de vivre en Centrafrique. Pourquoi faire un regroupement des musulmans à un endroit sur une partie du territoire pour prétendre à une partition du pays parce qu'on pense que les musulmans ne sont pas accueillis, sont persécutés par un groupuscule de gens, par les anti-baraka, alors il faudrait maintenant les déplacer à un endroit. Est-ce qu'on va déplacer tous les musulmans centrafricains qui sont naturellement centrafricains? de nationalité centrafricaine, est-ce qu'on va les regrouper aussi à un endroit? Ceux qui sont, par exemple, de l'Est, est-ce qu'on va les déplacer pour les amener là-bas, là où les gens veulent faire un regroupement des musulmans? Nous disons qu'il faut une volonté politique partagée. Et quand je parle de volonté politique partagée, volonté de la part des autorités centrafricaines, volonté aussi de la part de la communauté internationale. Il faut qu'on comprenne qu'il y a eu incompréhension entre les populations d'un peuple, d'un pays. Il faut maintenant chercher à réconcilier ce peuple avec lui-même, essayer de donner un même langage, écarter ce qu'on appelle la manipulation, l'hypocrisie, pour dire un message vrai. Et c'est ce que nous faisons en tant que responsables religieux. Nous ne faisons pas de la manipulation. Lorsque nous prêchons un message qui va au cœur d'un individu, d'une personne, et quitte à cet individu-là maintenant de recevoir ou de rejeter cette parole. Et je crois que tous les efforts devront être convergés dans ce sens pour amener les Centrafricains à s'accepter mutuellement et aller dans le sens du pardon et de la réconciliation.
Mais est-ce qu'aujourd'hui vous faites confiance, tous les trois, à l'Union africaine pour gérer ces questions? Il y a notamment la MISCA actuellement, mais est-ce que vous lui faites confiance à l'Union africaine?
L'Union africaine est limitée aussi dans ses actions. La force MISCA qui est là en place n'a pas vraiment les moyens appropriés pour assumer la pacification du pays. Même Bangui seulement, la force de l'Union africaine qui est là n'a pas pu vraiment pouvoir sécuriser même Bangui, parce qu'ils sont en difficulté logistique, en difficulté de communication, appareil de communication, il n'y a plus rien. Donc d'autres se déplacent même à pied au niveau de Bangui. Combien de fois le territoire est si vaste, 623 000 km², je ne pense pas que nous ne disons pas que les forces africaines sont incompétentes, mais ils sont limités dans les moyens qui doivent leur permettre vraiment de pacifier le pays, de sécuriser le pays, qu'il faut une opération de maintien de la paix des Nations Unies pour pouvoir vraiment résoudre le conflit centrafricain.
Et archevêque Nzapalainga, tous ceux qui nous suivent connaissent l'histoire de la présence militaire tchadienne en Centrafrique. Que pensez-vous aujourd'hui du rôle de l'armée d'Idriss Déby en Centrafrique?
En effet, il y a toujours eu un contentieux bilatéral entre le Tchad et Centrafrique, pour la plus simple raison que, si vous regardez bien, Bozizé est arrivé au pouvoir accompagné des mercenaires tchadiens. Certains ne sont pas repartis, ils sont restés sur le territoire centrafricain. Ntode arrive avec les Tchadiens et les Soudanais aussi. Et beaucoup de Centrafricains, dans leur imaginaire, dans leur inconscient, pensent que l'autre malheur vient du Tchad parce que tous ces rebelles-là viennent de ces villes-là. Et je pense qu'il y a eu amalgame aussi à plusieurs reprises. Il y a des militaires tchadiens envoyés officiellement par l'État qui ont retrouvé leurs frères d'armes dans la rébellion. On a vu des scènes de fraternité, ce qui n'a pas rassuré la communauté centrafricaine. Quand on est professionnel, même si on a une mission bien précise, on doit faire attention à ne pas confondre sa mission avec ceux qui sont venus, on va dire, de manière informelle, hein, dans un pays qui était en train de saigner ce pays et détruire. Et je pense qu'il y a une ambiguïté, il y a un problème réel, et que tôt ou tard, il faudrait que nos deux pays s'asseyent pour étudier et voir et créer une nouvelle dynamique d'une bonne relation bilatérale.
Révérend Bangou, vous aviez des mots un petit peu plus durs, hein, concernant le Tchad, lors notamment de vos interventions ici à Washington.
Bon, nous ne sommes pas en train de gratifier des mots. Nous ne sommes pas en train d'acculer un pays, ami, un pays voisin, hein, de tous les maux du monde. Nous sommes en train de présenter la réalité, hein, que le Centrafricain est en train de vivre en Centrafrique. On ne peut pas prétendre aider un pays ami et en même temps l'enfoncer dans la situation de la détresse. On ne peut pas prétendre venir faire le sapeur-pompier dans un pays et en même temps endeuiller ce pays. Et donc nous pensons que la collaboration avec notre pays frère, le Tchad, devra connaître un nouvel essor. Et je crois que tout ça, c'est des discussions qui devront être menées, pas seulement au niveau de l'Union africaine, mais aussi au niveau des Nations unies. Voilà pourquoi j'avais voulu ajouter à ce que l'imam a dit, que la problématique qui se pose en ce moment au niveau de la sécurité ou de la pacification de la RCA ne se pose pas en termes de méfiance, mais c'est une question de réalité. Lorsqu'on est dépassé, on est obligé de dire la vérité que je suis dépassé et que j'ai besoin d'un renfort, d'un secours quelque part. Et donc nous disons que intégrer le Tchad au sein de la force multinationale chargée de pacifier ou de sécuriser la RCA n'est qu'une manière d'amuser la galerie, de tromper le peuple centrafricain. Nous pensons que, objectivement, l'Union africaine devrait être en mesure de dire au Tchad, étant donné que vous ne pouvez pas jouer le rôle en même temps de partisans et en même temps d'adversaires, essayez de vous retirer, suspendez votre participation à la force de maintien de la paix en Centrafrique jusqu'à ce qu'un jour les relations bilatérales entre la RCA et, et le Tchad soient revues.
Autre priorité, il y a évidemment la sécurité, mais il y a aussi la saison des pluies qui s'annonce. Vous êtes inquiet concernant cette saison des pluies qui arrive, notamment pour la situation des déplacés.
Très inquiet, parce que nous venons de faire une tournée à l'intérieur du pays. Nous avons constaté qu'il y a des villages qui ont été entièrement brûlés et que les habitants de ces villages ont pris pour maison des arbres. Ils sont sous les arbres, ils dorment sous les arbres. Et que nous sommes déjà à l'entrée de la saison pluvieuse. Vraiment, ça sera difficile. C'est une situation catastrophique pour ces enfants, ces femmes, ces vieillards qui ne pourront pas se protéger de la pluie. Ils seront exposés à toutes les maladies et que nous pensons qu'il est vraiment urgent qu'une action humanitaire puisse vraiment se faire sur le terrain afin que cela puisse se trouver comme un abri. Où se cacher, où se protéger de la pluie. Nous sommes vraiment inquiets pour ces populations qui n'ont plus de domicile.
Et Monseigneur Nzapalainga, vous êtes aussi inquiet concernant le rôle de l'agriculture en Centrafrique. Vous avez dit cette semaine, on est revenu à l'âge de pierre.
Nous sommes revenus à l'âge de pierre parce que dans une partie de la République centrafricaine, les gens ont commencé avec des bêtes à labourer le sol. Et ça pouvait rentabiliser et aussi aider la population à avoir un rendement conséquent. Maintenant, avec la situation de la rébellion, toutes les bêtes qui ont été emmenées dans un autre pays, les gens sont revenus à l'âge de la pierre, ils vont prendre la houe. Or, actuellement, c'est la saison sèche. Et même ces houes-là, on ne leur a pas distribué. On n'a pas distribué la semence et nous sommes inquiets. La faim est là. Elle pointe à la porte de la République centrafricaine. Si on ne fait rien, les Centrafricains vont devenir mendiants malgré eux. Voilà pourquoi il est temps de pouvoir s'appuyer et surtout poser des actes pour soutenir l'agriculture. C'est la mamelle de la République centrafricaine. Si les agriculteurs ne vont pas au champ et tout, comment allons-nous nourrir la population ? Comment allons-nous aussi exister au sein de la sous-région ? Voilà pourquoi nous pensons que nous avons une faune riche, une terre riche. Il faut qu'on nous donne des moyens, que les agriculteurs reçoivent des semences, ils reçoivent des outils. Sera une manière pour eux de retrouver leur dignité et de pouvoir se projeter dans l'avenir.
Et face évidemment à toutes ces difficultés, Révérend Gbangou, pourquoi maintenir ce calendrier absolument pour les élections février 2015 ? Est-ce réaliste ?
La question se pose entre Centrafricains et la communauté internationale. Mon collègue a l'habitude de dire qu'il ne faut pas confondre précipitation et
vitesse.
Et, vitesse. Oui. Et nous pensons que... alors, il faudrait que ce soit la MISCA, que ce soit Sangaris, que ce soit l'OMP, l'opération de mission de la paix, qui sera déployée en Centrafrique. Ce sera à eux d'évaluer la situation sur le terrain, de voir est-ce que... le territoire centrafricain a été suffisamment pacifié. Est-ce que ce territoire a été suffisamment sécurisé pour qu'il y ait libre circulation pour permettre à ceux qui seront les électeurs de pouvoir élire le nouveau président ou les nouvelles autorités de la République centrafricaine ? Parce que à l'heure où nous parlons, même Bangui déjà peine à être sécurisé.
Mais oui.
Bangui peine à être sécurisé. Bangui, une partie de Bangui est sécurisée par la MISCA et Sangaris, mais une partie est entre les mains des anti-Baraka. Il faut se dire la vérité, si seulement, si déjà au niveau de Bangui, La Misca et Sangaris n'ont pas pu sécuriser toute la ville. Imaginez la situation de l'arrière-pays. Et donc, nous nous disons que c'est le terrain qui va commander. C'est le terrain qui va commander. Si on réussit à pacifier en 2 mois, 3 mois, et qu'on pense qu'on peut aller aux élections, qu'est-ce que nous avons à gagner, ou bien qu'est-ce que quelqu'un aurait à gagner à faire perdurer la suspense sur le peuple centrafricain, alors que ce peuple a besoin d'un nouveau souffle pour prendre un nouvel envol. Donc pour nous, nous disons que qu'on aille pacifier le pays, qu'on installe l'administration de l'État sur tout le territoire, parce qu'en ce moment, quand on parle de l'administration de l'État centrafricain, il n'y a que Bangui. Alors comment est-ce que les populations qui sont déplacées, là c'est un autre problème, les déplacés internes et externes, qui ont droit aussi au vote, qui ne sont pas encore ramenés chez eux, il y en a qui ont perdu de leurs parents, il y en a qui ont perdu leur maison, leurs biens, ils ont besoin de se réintégrer encore dans la société. Et tout ça, c'est un travail d'accompagnement que la communauté internationale doit faire au chevet de la République centrafricaine pour qu'on arrive à l'organisation des élections qui seront crédibles et acceptées par tous.
Alors cette semaine, nous avons entendu l'archevêque Dieudonné Nzapalainga déclarer que la Centrafrique traversait actuellement les heures les plus sombres de son histoire. Nous allons terminer cette émission par cette question. Êtes-vous confiant qu'un jour, chacun d'entre vous, la Centrafrique retrouve la lumière ?
Nous sommes les hommes de la lumière. Nous prêchons la lumière. Et Dieu aussi est la lumière. Dieu est devant le peuple centrafricain. Et nous pensons que cette lumière va rayonner toute la République centrafricaine et que ça va rayonner aussi le cœur de tous les Centrafricains pour que le vivre ensemble puisse être une réalité comme cela a été pendant des décennies.
Notre Dieu est un Dieu d'espérance et nous prêchons le message d'espérance. Voilà pourquoi nous croyons que tous les messages que nous véhiculons, que ce soit au niveau national et que ce soit au niveau international, nous les véhiculons pour que les personnes de bonne volonté les écoutent pour répondre favorablement au soupir du peuple centrafricain. Et en répondant au soupir du peuple centrafricain, pourquoi est-ce que la RCA devra continuer à vivre dans le gouffre? Il y a des pays qui ont connu des moments plus pires que la RCA. En ce moment, ils font partie des pays émergents. Qu'est-ce qui dit que demain, la RCA ne le sera pas aussi? Donc pour nous, nous ne désespérons pas, nous espérons contre toute espérance que la RCA va vivre un jour, un beau jour qu'il n'a jamais vécu.
La République centrafricaine connaît les moments les plus sombres de son histoire, est une posture réaliste en tenant compte de la situation qui prévaut actuellement dans mon pays. En même temps, je suis un homme de foi. Je suis appelé à voir plus loin. Porté par cette foi, j'ose croire et je formule cette prière, le souhait qu'un jour, nous allons nous sortir de ce gouffre-là. En même temps, je voudrais le dire, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Le jour nouveau que les Centrafricains attendent, c'est le jour où la fraternité sera d'actualité. Musulmans, chrétiens, ensemble, on va se tenir dans la main pour construire le beau pays qui s'appelle la République centrafricaine. Musulmans et chrétiens, nous formons une unité, comme Barthélemy Boganda nous l'a dit. Musulmans et chrétiens, nous pourrons collaborer ensemble pour le vivre ensemble. Et tout cela, nous pensons que tôt ou tard, ce message retentira dans le cœur des Centrafricains, dans le cœur des hommes de bonne volonté. La raison prendra le dessus. La foi nous portera vers un ailleurs meilleur.
Imam Layama, révérend Bangou, archevêque Nzapalainga Singila.
Singila Mingi.
Merci beaucoup de nous avoir suivis sur La Voix de l'Amérique. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette interview en intégralité sur le www.lavoixdelamerique.com. À très bientôt.